Anniversaire de naissance.
Ah, OK, anniversaire de naissance.
À 45 ans.
D'accord, 45 ans. Et donc, vous êtes arrivé ici au bout de 10 ans.
11 ans et 2 mois.
11 ans et 2 mois même.
Ça va être à Montréal, oui, là, en ça. Principe. Là.
OK.
Si on regarde, ça va être le 16 octobre.
Qu'est-ce qui vous a poussé premièrement?
C'est l'écœurantite aiguë, la crise existentielle qu'on a. Comment on dit en français? On dit le démon du midi, mais comment on dirait ça autrement? Là? C'est comme une crise existentielle de mi-âge. Là.
Okay.
Et puis, donc, j'avais un désir de changer ma vie complètement. Donc, c'est ça. Tu sais, j'avais une petite entreprise d'enseigne. Tu te souviens, le verre de là?
Oui.
Petite entreprise d'enseigne lumineuse à Granby. Puis, ça, c'est arrivé, le verre de là. Et puis, là, je me suis dit, ça y est. Mais ça retardait, les commandes retardaient, tout ça. Là. Fait que là, j'ai dit, non, je ne vais plus là-dedans. C'est fini. Fait que on a fermé les portes. Après 6 ou 8 mois à peu près. Là.
Okay.
Et puis, nous, on a déménagé à Montréal. Mon épouse, son travail déménageait dans ce coin-là. Déménagé à Montréal, là, j'avais un entraînement. Puis, ça m'est venu comme ça, là, à un certain moment donné. En combien de temps je pourrais rejoindre New York? Pourquoi pas le Mexique? Et puis, pourquoi pas le reste du monde? Donc, j'ai fait, je sais pas si tu connais l'histoire ou tu as vu ça. Et puis donc j'ai fait un tracé sur la carte du monde et puis traversé des 5 grands continents.
Oui.
C'est seulement comme un peu pour un rêve, sans nécessairement penser que je pourrais y aller. Mais finalement, quand j'ai fait l'estimation des kilomètres et du temps qui me donnait une décennie, c'est comme si j'avais un projet en face de moi. J'ai dit, ça y est, là ça m'a pris.
Okay.
Je peux plus arrêter l'idée. Et puis suite à ça, j'ai pas parlé à ma famille pendant 8 mois. Et garder ça secret. Puis
ouais.
Là, pas fin. Hein? Et puis, c'est donc 3 semaines et demie avant de partir, là, j'étais nerveux. Puis là, c'était un dimanche matin, on met le déjeuner sur la table. Puis là, j'ai dit, écoute, je vais avoir un tour du monde, tout ça, blabla. Après ça, elle m'a dit, mais comment tu vas faire ça? J'ai dit, je vais pousser un petit chariot, comme tu as vu dans le site.
Ouais, j'ai
vu,
c'est ça.
D'accord. Et puis, demander de l'hospitalité. Après ça, elle m'a dit, tu vas retourner à la maison de temps en temps. J'ai dit, non. Après tout, mais toi, tu peux venir sur ma route. Et puis, donc, elle est venue tous les ans, trois semaines par année à peu près.
C'est ça.
Et puis, après ça, elle me dit, c'est fini entre nous. Je dis, non, je t'aime, c'est pas pour d'autres objectifs. Après ça, elle me dit, fais-le pour la paix. Donc, on a été parachutés pour faire une histoire courte dans la décennie internationale de la promotion d'une culture de paix et non-violence au profit des enfants. Hein? La dénomination est dans le site Internet. Et puis, j'ai fait l'annonce à ma famille, après ça, mes enfants. Et puis, elle me dit, c'est ça, on essaye. Et puis, donc, ça, c'est un peu comme des journaux que ça, j'étais au Texas et puis ça, en Afrique du Sud.
Le nombre de pays que vous avez visité?
C'est 64. Et puis, c'est comme on a parlé, la traversée des continents. Il y a des pays que j'ai pas fait. Par exemple, la Colombie, c'était dangereux en 2002.
Oui.
La Libye, ils m'ont pas donné le visa. Il y a le Balouche, ici, une région qui est un petit peu à risque au niveau des kidnappes. Et puis le Tibet, ils m'ont pas donné la permission. Les Chinois, c'était les Olympiques, ils avaient un peu peur.
Okay.
Donc, dans ce temps-là. Donc, j'ai des trous dans ma marche. C'est déjà privilégié de pouvoir avoir marché tout ça. Hein. Comme Canadien, probablement, ou comme passeport canadien.
On parle combien de kilomètres à la marche?
Pardon?
Combien de kilomètres à la marche?
Par jour? Total, là.
Okay.
Ben là, ça va être 75 500 et quelques poussières. Donc
vous devez être quelqu'un de sans
faute. Oh! Watch out!
Ouais.
Vous avez été malade aussi?
J'ai eu 3 grandes diarrhées. On dit que la marche, c'est bon pour la santé. C'est vrai que c'est bon pour la santé. Et puis, j'ai eu 3 grandes diarrhées, des infections où il fallait que je me guérisse avec des antibiotiques. Mais c'est rien, parce que comparé à toute la vulnérabilité de la marche, donc je dois marcher les gens, et puis manger leur nourriture, boire leur eau, et puis l'Afrique ou l'Inde, j'ai toujours bu l'eau locale.
Mm-hmm.
Et puis, donc, il y a quelque chose qui se développe, des anticorps qui se développent dans nous, hein, la flore bactérienne, tout ça s'adapte tranquillement à l'environnement. Et puis, j'ai été opéré en Algérie, où, donc, c'est-à-dire que j'avais de la misère avec mon système urinaire, de la misère à uriner dans l'Afrique et plus loin, dans l'Algérie. J'ai eu la chance de, par hasard, rencontrer un médecin. Puis, j'ai demandé s'il pouvait vérifier, puis tout ça. Il dit, oui, ça me fait plaisir. Il passait les échographies, tout ça, les tests. Il dit, matière à opération. Là, j'ai dit, oh, je peux pas payer, moi, là, tu sais, j'ai pas d'argent pour ça. Même si je retourne au Canada, je vais toujours attendre 3 mois pour retrouver le système santé, puis après ça, la queue, là, tout le monde dit, là. Oh. Fait que là, il dit, non, ça nous fait plaisir, nous, on voudrait te supporter dans tout ça. Et puis, ils ont fait l'intervention par voie naturelle, et puis avec succès, à l'Université de Oran. C'est le professeur Attar qui a fait... intervention. J'ai justement reçu un courriel de lui il y a une semaine et puis c'était joli d'avoir des nouvelles de lui et puis tout ça. Là.
Votre fils vous a aidé?
Il vous dit, Thomas-Éric, ici, dans la marche Gatineau, Laval, oui. Il a tout préparé ça avec quelqu'un d'autre aussi, qui s'appelle Normand Baudet, comme une association pour la paix, mais il a travaillé très fort. Donc, la marche, j'avais 4 000 $ pour partir seulement. Hein. Et puis, immédiatement, les Américains ont été vraiment généreux. Ils étaient heureux de me donner des places, des amis pour dormir plus loin. Et puis, la nourriture, ils m'emmenaient dans les supermarchés. Remplis ton chariot, nous, on paye tout ça. Et puis, des fois, un petit peu d'argent aussi, puis tout ça. On peut dire qu'en moyenne, la marche, 85% des aides viennent sur la route. Luce, mon épouse, elle a fourni comme 4 000 $ par année.
Votre lien avec Antoinette Layoun, votre amitié, comment elle est née?
Antoinette Layoun, ici. Ah oui, Antoinette, pardon. Ben, sais-tu ça, c'est... comment c'est né, ça?
C'était particulier parce que quand j'ai organisé ici la journée pour la paix, c'est la députée fédérale, le bureau de la députée fédérale qui m'a contactée juste avant la journée pour la paix pour me demander si je veux, parce qu'elle savait que le centre ici en œuvre pour la paix, si je veux vous recevoir. Et Thomas-Éric et Normand Baudet sont venus ici la journée de la paix nous visiter. Puis je les ai montré les lieux, puis ils ont su que j'étais un enfant soldat dans une guerre. Okay. Et Normand Baudet, il œuvre pour ça, pour les enfants de...
Ouais, Normand Baudet, c'est un homme fantastique. Donc, il y avait des relations dans tout ça. Oui. Puis lui, il a dit immédiatement, il dit genre, moi je veux t'organiser Gatineau-Laval. Donc, on a mis Thomas-Éric, mon fils, avec lui. Ils ont fait une équipe absolument fantastique dans toute la logistique de la marche. Parce qu'on a des marcheurs qui viennent avec nous. Et puis, donc, ça prenait des transports, des fois, pour des bagages, tout ça. Et puis, donc, les gens ont été vraiment participatifs dans cette marche-là. Et maintenant, c'est fini. Cette section-là va être finie demain. Et ça va être l'ambassadeur Yvon Charbonneau. L'ex-ambassadeur Yvon Charbonneau, qui était ambassadeur à l'UNESCO à Paris, où j'ai eu l'honneur d'être honoré à Paris. Il y avait une vingtaine d'ambassadeurs, et puis pour reconnaître la contribution de la décennie de la violence, pour que... Je suis fatigué. Donc, c'était une cérémonie de reconnaissance de la contribution que la marche fait à l'UNESCO.
Monsieur Jean, votre définition à vous de la paix, c'est quoi?
La paix, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est une fine ligne où il faut se rééquilibrer parce qu'on a des forces qui nous tirent de chaque côté. Et on doit essayer de... C'est comme une fine ligne du point A au point B. Le point A où... On est né, après ça, le point B où on meurt, et puis c'est la ligne la plus droite. Mais en tant qu'être humain, bon, j'ai deux côtés qui me tirent. On dit le positif et le négatif. On peut dire le bien ou le mal qui me tire d'un côté et de l'autre de cette ligne-là. Bon, il faut essayer de se rétablir le plus près possible de cette ligne-là. Donc ça, c'est l'équilibre, la paix. Et puis, mais c'est quelque chose qui est très difficile. C'est une culture, hein? C'est quelque chose qu'il faut cultiver. L'UNESCO le dit, une culture de paix et de non-violence.
Ça commence comment?
Ça commence par nous, dans le fond de nos cœurs, essayer d'enlever les violences qu'on a et pas la propager sur d'autres. Et puis, je pense que quand on a des conflits, qui est absolument normal, on va toujours avoir des conflits à différents niveaux. Y aller probablement plus dans la prévention que d'éteindre des feux. Si je m'aperçois que quelqu'un souffre à côté de moi, être vraiment empathique, comme on dit, et d'essayer de comprendre, et puis tranquillement, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est une science difficile, hein, c'est une science qui est pas facile à ramener, mais c'est une culture, et puis donc c'est l'équilibre. Hein, la paix, c'est un équilibre.
Et d'un point de
des
vue,
forces, des différentes forces.
D'un point de vue un petit peu plus personnel, qu'est-ce que ça m'a apporté? Parce que j'imagine que vous avez réfléchi énormément.
Ouais, c'est ça, c'est un grand bagage intellectuel que je rapporte ici à la maison maintenant. Et puis, pour moi, j'ai l'impression que j'ai été comme dans une grande université. OK, rencontrer les gens, j'ai été reçu par 1600 familles. Et puis rentrer dans leur vie, et puis ils partagent leur nourriture, on regarde comment ils vivent un peu. Mm-hmm. Tu regardes les enfants autour qui ont des sourires, et puis les personnes âgées, parce qu'eux, ils gardent leur vieux. Hein. C'est plus comme maintenant ici, là. Ici on n'a plus ça, là, c'est-à-dire. Et puis donc on apprend sur les valeurs qu'on perd un peu. Des fois je me dis probablement, au lieu d'exporter un style de vie que nous, on a, et puis, dans le fond, on brise un peu notre planète, finalement, on en a de la violence domestique. Ici, on exporte un style de vie ailleurs, et puis on dit qu'on pense qu'on est la civilisation suprême. Mm-hmm. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre des gens, mm-hmm. dans la simplicité des choses, et puis... c'est très, très riche que d'être reçu et puis de voir comment ils règlent leurs conflits aussi. J'étais en Afrique, par exemple, au Mozambique, où j'arrive et puis le chef s'assoit en face de sa hutte, et puis il arrive des gens autour, puis un groupe qui s'assoit là, puis l'autre côté là. Là, il parlait lentement et puis tout ça, et puis finalement, ça a duré 20 minutes, cette affaire-là, et puis tout le monde s'en va. Et puis là, je demande au chef ce qui s'est passé. Il dit, je vais te le dire. Il dit, un jeune qui a volé une vache de l'autre, du père de l'autre clan. Fait que, puis comment ça s'est réglé? Il l'avait vendu au Zimbabwe, donc la vache, il ne pouvait plus la récupérer. Fait que finalement, le père du fils qui a volé la vache, ils se sont accordés qu'il va donner une vache aux victimes. Donc, ils se sont accordés comme ça. Donc, simplement, et puis ça, ça n'a rien coûté. Ça n'a pas coûté d'avocat, ça n'a pas coûté du système judiciaire, ça n'a pas coûté de police, frais de police, ça n'a pas coûté de services sociaux, ça n'a pas coûté de machines.
Il y a un aspect de bonne foi là-dedans.
Donc, c'est ça se fait entre eux. Puis c'est ce que nous, on n'a pas. On met ça dans les mains des machines, et puis ça rentre, et puis ça coûte des fortunes, tout ça. Et puis, donc, essayer de simplifier les choses. Puis vraiment régler les choses entre nous. Et puis développer cette culture de régler les conflits de façon pacifique entre nous ici. Et puis c'est tout, ça s'est réglé comme ça. Ici, ça serait l'enfer, ça serait tout un système. Hein? Donc.
Et comment vous entrevoyez le retour chez vous?
Ah, wow!
Est-ce que vous avez des plans? J'imagine des plans de
oui, les plans sont faits par après. Oui, exactement. C'est là, il reste 2 jours de marche. Et puis, à 5 heures, on va arriver. Après. Là, mon épouse va me recevoir au pont de la Chapelle à 10 heures, dimanche matin.
Oh, OK.
Puis après ça, au pont l'autre côté du pont de la Chapelle.
OK.
C'est ça. Donc, elle va être là avec la presse et des dignitaires et tout ça. Il va nous rester 19 km à marcher au travers la ville. Il y a un parcours déterminé sur le site Internet. Vous allez voir ça dans les dernières nouvelles et puis okay. Tous les détails, les stations de métro, les heures, tout ça.
L'adresse du site?
C'est le www.alk.org comme www.walk.org. Et puis, donc, il y a tout là-dedans. Et puis après ça, là, on va marcher jusqu'au centre-ville, jusqu'à la plage Jacques-Cartier, où à 5 heures, ça va être les cérémonies de bienvenue et tout ça, tout le tralala. Et puis, donc, après ça, on va s'en aller chez nous, puis on va être à la maison. Bon, pour répondre à votre question pour l'après, ça va être les conférences, et puis les livres, et puis c'est... Et puis travailler pour la paix, essayer de continuer dans cette ligne-là. Probablement que ma réelle mission va commencer après la marche. Okay. Et puis donc je supporte un désir pour qu'on ait au niveau fédéral un ministère de la paix. Et puis donc il y a des gens là, ça s'appelle le CDPI en anglais, en français on dirait le Département canadien des initiatives de paix. Okay. Et puis donc, nous, on n'est pas contre un ministère de la défense, mais qui reste défense, pas offense, okay. Dans ce sens-là. Et puis, c'est tout. Après ça, ben oui, être avec la famille, faut pas oublier ça. Là, tout à l'heure, je sais pas si vous allez être ici, mais vous allez peut-être être témoin que je vais recevoir, je vais rencontrer ma petite-fille. J'ai deux petits, je suis devenu grand-père de deux petites-filles. Okay. J'ai rencontré la première à en Allemagne, à Hambourg. Mon fils Thomas, il est demeuré à Hambourg. Okay. J'ai rencontré là en 2006, elle avait 5 ans. Puis là, sa petite sœur qui j'ai jamais rencontrée, elle s'en vient tout à l'heure.
Okay.
Pour la première fois, elle a 5 ans. Okay. Fait que je vais rencontrer l'autre, la première, la deuxième fois.
Puis ils restent tous à dormir chez nous, toute okay. La famille.
Ouais, c'est gentil, franchement. Merci beaucoup pour votre support. Ah, puis elle le fait avec un sourire, hein? Comme si ouais. C'était rien. Hein? C'est ouais. Ça, c'est ça, ces gens-là. Moi, j'ai été reçu
Qu'est-ce que vous voulez dire, ces gens-là?
Pardon?
Qu'est-ce que vous voulez dire par ces gens-là?
Je le dis, là. C'est que j'ai été reçu dans le monde arabe et puis on mange. On mange bien et puis c'est des gens absolument doux. Et puis, j'étais gâté là-bas. Ils m'ont aimé énormément. Et puis, j'ai appris beaucoup de cette culture-là. Et puis, donc, pour moi... donc, je trouve ça riche. Simplement riche. Et puis, donc, c'est ça. Ces gens-là sont comme ça. Ils les connaissent. Ils m'ont reçu dans d'autres pays. OK, j'ai peut-être pas été au Liban, mais... Donc, c'est une culture en général où les gens sont recevants. Et puis, la nourriture, puis...
Donc, c'est loin de ce que nous, on peut voir dans les médias.
Oui, absolument loin.
De ce qu'on voit aux nouvelles.
Oui, exactement, c'est ça.
C'est pas la vie de là-bas qu'on voit.
Non. Non, j'étais en Iran et puis les gens étaient recevants. Puis, viens chez nous, on a de la place pour toi. Et les Iraniens, les gens me disaient ici, « Ah, t'as été en Iran, c'est dangereux, là, mais il n'y a pas de guerre, là. » C'est ça, donc c'est la propagande là. Bon, faut le dire, c'est tout. Et puis les Iraniens, c'est des gens très cultivés, c'est des gens qui connaissent leur histoire, c'est des Perses. Et puis qui aiment le monde occidental. Ils aiment énormément le monde occidental. Il n'y a pas rien de parfait, ok?
Non, ça,
à nulle part.
Bon. Non, c'est quand même... C'était juste pour dire que j'apprécie beaucoup ta vision de la paix. Ça rejoint beaucoup la nôtre ici.
Ben, c'est une vision, non?
C'est ça. C'est... Non, mais
on
c'est pas tout le monde.
Différemment.
Ouais.
Vous l'appliquez dans le yoga, l'équilibre des énergies en
puis
dedans
les
et puis tout ça.
Ben, oui. Les relations.
C'est des grandes missions que ces gens-là ont. Puis,
c'est...
Puis donc, on voit finalement qu'il y a plein de petites initiatives, des micro-initiatives. Il y en a peut-être des centaines, peut-être des milliers à travers la province ou le Canada. Et puis, qu'on connaît pas du tout. Puis ces gens-là travaillent justement pour la paix. C'est pas quelque chose qui est connu, qui est comme une grande, je sais pas, une fondation pour la paix pour les enfants, mais ça, c'est immense. C'est micro.
Ils n'ont pas besoin d'être à l'UNESCO.
Non, absolument pas. C'est exactement. Et puis, ces micro organisations-là ou désirs, c'est si on en aurait beaucoup. Là, ça émerge, là, ça commence. Il y en a de plus en plus de ça. Ça veut dire qu'on a un désir, Le monde, c'est pas facile. On s'en va vers un monde politique et économique, ce que je veux dire, assez difficile. Donc, il y a un stress qui s'établit dans la société, le travail, l'argent, tout ça. Et puis, puis donc il y a des violences qui sortent, les gens veulent s'en sortir de ça, et puis on a besoin de cultiver ça, et puis ça prend pas nécessairement, la paix n'appartient pas nécessairement à une religion ou à un gouvernement, hein, ou à un parti politique. La paix, c'est pour tous, et sans le manifeste de l'UNESCO, il le dit, contre l'exclusion, hein? Ça veut dire tous ensemble dans un désir de paix. Hein?
Puis c'est comme il faut qu'on en parle, par exemple. Il faut que, je trouve que même autant chacun de nous, on doit en parler dans nos familles, dans notre entourage, autant que les médias doivent en parler. C'est à travers chacun de nous. À travers même dans nos relations, de voir comment à partir d'une petite chose on va partir une chicane, puis ça va faire une guerre relationnelle. Je pense que c'est toute cette conscience-là que on doit tous mettre ensemble.
Donc, le truc c'est ça, c'est simple, c'est parler et écouter, prendre le temps de penser. Et sortir un mot, parler, et l'autre, écouter aussi. Donc, c'est prendre le temps de penser avant de dire des choses qui peuvent blesser encore. Pour essayer de régler les conflits qui sont des points de vue différents. Simplement, le conflit.
Là, les gens qui vous entendent parler se rendent pas compte que vous faites des signes aussi en même temps. Je pense que c'est pas la première fois que vous venez d'expliquer ce concept-là. Parce que là, je vous voyais avec vos mains d'expliquer tout ça. Pouvez-vous nous synthétiser en une dernière phrase, un souhait profond qui symboliserait vraiment une action concrète que quelqu'une qui va écouter cette petite entrevue, qui pourrait lui aider ou l'aider?
Wow, ça c'est spécial, là, c'est une question, je ne sais pas si je vais la comprendre bien comme il faut, votre question, avec la fatigue maintenant. Donc, ou un mot-clé ou quelque chose comme ça, je pense que le mot harmonie, donc on a des différentes couleurs ou des différentes notes de musique dans le monde entier. On est tous une note. Et donc, on doit ensemble s'harmoniser pour faire une jolie mélodie et ne pas être discordant, hein, dans tout ça.
C'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette image-là.
Merci beaucoup.
Ça y est, plaisir. D'autres questions, vous?
Ça va aller. Non, merci, je vais vous laisser.